Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous lisons en ce moment au bréviaire les deux livres des Maccabées. C'est une très belle histoire, écrite pour notre instruction. Il est donc tout à fait profitable de lire ces pages et de les méditer, ne serait-ce que dans une bonne histoire sainte. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le monde méditerranéen était sous la domination hellénistique ou hellénique. La Palestine était devenue une province du royaume grec de Syrie. Et sous l'influence du paganisme, insensiblement, un certain nombre de Juifs s'étaient laissés séduire par l'existence facile et relâchée des gentils, des païens. Et ils s'étaient mis à envier la liberté, il faudrait plutôt dire la licence, de leurs mœurs. Un parti hellénisant, nous dirions aujourd'hui un parti de progrès, s'était constitué jusque dans la ville sainte de Jérusalem et s'y faisait l'apôtre de la culture et des usages païens. L'esprit libéral s'étendait peu à peu, surtout dans la classe dirigeante, dans la haute société. Cherchant à atténuer les exigences de la loi de Dieu, surtout celles qui visaient à préserver et à séparer les Juifs de l'idolâtrie de leurs voisins païens. Et progressivement, la vraie religion se diluait dans le paganisme ambiant. Alors, le peuple élu, ce peuple choisi par Dieu pour préparer la venue du Messie, allait-il apostasier ? Allait-il se paganiser complètement ? Ou resterait-il fidèle au vrai Dieu ? Survint un roi persécuteur, le tristement célèbre Antiochus Épiphane, qui est un type de l'Antéchrist. Il publia un édit dans tout son royaume, dont la Palestine faisait donc partie, ordonnant que tous se rallient au paganisme et adoptent l'esprit de tolérance religieuse, abandonnent leur religion particulière. C'était déjà l'œcuménisme avant la lettre. Tous les détails de l'apostasie étaient réglés. Il fallait renoncer à la circoncision, adorer les dieux infâmes de l'Olympe, prendre part aux sacrifices païens, brûler les livres saints et adopter les coutumes débauchées des gentils sous peine d'encourir la torture et la mort. Et l'auteur du premier livre des rois, des Maccabées, gémit en disant « Beaucoup d'Israélites consentirent à suivre le culte du roi. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. » Bien plus, le temple était devenu un lieu d'orgie et on vit s'élever dans le temple l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel. En décembre 168 avant Jésus-Christ, les Syriens installèrent un autel païen à la place de l'autel des holocaustes et érigèrent dans le Saint des Saints une statue de Zeus olympien. Alors, sans rechercher une correspondance exacte avec tous ces faits, nous ne pouvons pas ne pas remarquer que nous vivons actuellement une histoire analogue depuis environ 60 ans. Les réformes conciliaires ont entraîné dans l'apostasie des masses énormes et toutes les élites catholiques. L'esprit libéral a tout envahi. Que reste-t-il aujourd'hui de la morale traditionnelle ? Et puis la persécution, une persécution qui n'est pas physique sans doute, mais qui est morale, psychologique, s'est abattue sur tous ceux qui veulent rester fidèles. On a même vu depuis les années 1969-1970 un nouveau culte, une nouvelle messe dressée à la place de nos anciens autels. Le culte de l'homme a remplacé le culte de Dieu jusque dans l'enseignement des hommes d'Église. Alors le texte sacré continue. « En ces jours-là, dit-il, parut Mattathias. » Vous connaissez l'histoire de ce prêtre juste, père de 5 fils, aussi zélé que lui, qui donna un coup d'arrêt à l'invasion du paganisme. Lorsque les officiers du roi Antiochus Épiphane vinrent contraindre les habitants de son village à apostasier, Mattathias se dressa. Quand toutes les nations qui font partie du royaume d'Antiochus, dit-il, lui obéiraient et abandonneraient le culte de leur père, moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que Dieu nous garde d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi pour nous écarter de notre culte, ni à droite ni à gauche. C'est comme ça que s'exprime l'auteur sacré. Parole fière qui annonce déjà celle de saint Pierre au Sanhédrin, qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand un villageois lâche, impie, s'avança pour sacrifier aux idoles païennes, Mattathias, indigné de colère, se précipita, frappa cet infidèle, ainsi que l'officier du roi qui forçait la population à sacrifier, et renversa l'autel idolâtre. Et ce fut le signal de la résistance dans tout le pays. Et l'épopée des Maccabées avait commencé. À la mort de Mattathias, son troisième fils, Judas, surnommé Maccabée, c'est lui qui a donné son nom à toute la dynastie. Maccabée, ça signifie marteau. Judas prit la tête du soulèvement. Les âmes fortes furent nombreuses à le suivre. Pourtant, la persécution les foula aux pieds, comme dit l'énergique expression de l'Écriture, mais sans jamais parvenir à entamer leur foi. Il faut lire dans le deuxième livre des Maccabées le récit du martyr d'Éléazar, par exemple, mis à mort pour avoir refusé de se prêter, ne serait-ce qu'à un simulacre d'apostasie, ou encore l'histoire très belle de cette mère incomparable qui assista au supplice de ses 7 fils, l'un après l'autre, en les encourageant et en leur montrant le ciel, avant d'être elle-même sauvagement assassinée. Alors nous pourrions dire peut-être, cette histoire des Maccabées s'est déroulée avant l'incarnation et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc sous l'ancien peuple, au temps des prophètes, au moment où il n'y avait pas encore de chrétiens. Comment peut-on les déclarer martyrs et célébrer leur fête? Ça paraît inconvenant. Saint Augustin, qui a fait au moins 2 sermons sur la fête des Maccabées, et qui s'adresse à lui-même cette objection, y répond en expliquant que le Christ a commencé à se former un peuple dès avant sa passion et que le peuple issu d'Abraham était déjà son peuple et que c'était déjà un peuple chrétien qui a eu ses martyrs. Alors sans doute le Christ n'était pas mort encore, mais sa mort future a fait d'eux de vrais martyrs. Je vous lis saint Augustin. Voici ce qu'il dit. « Je ne saurais trop mettre en garde votre charité, dit-il à ses fidèles d'Hippone, contre l'erreur qui consiste à croire que ces martyrs ne méritent pas le nom de chrétiens. Ils furent chrétiens avant la lettre. Chez eux, la réalité a précédé le nom. » Et pour bien se faire comprendre, saint Augustin a même imaginé un petit dialogue. Voici ce qu'il dit. « Un juif se lève et nous dit, comment ? Voilà des martyrs qui nous appartiennent, à nous les juifs, et vous osez nous les confisquer. Quelle audace est la vôtre de célébrer leur mémoire ? » L'objection, vous le noterez, est très intéressante, parce qu'elle rejoint celle que certains milieux néo-païens, aujourd'hui, adressent à l'Église catholique. On pourrait résumer cette objection de cette manière. L'Ancien Testament, c'est un document juif. C'est l'expression d'un monde, d'une loi, d'une mentalité qui n'a rien à voir avec la loi de grâce apportée par Jésus-Christ. Alors pourquoi s'encombrer de cette écriture étrangère ? L'Église a tort de vouloir récupérer et christianiser l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament n'est pas christianisable, donc il faut le laisser tomber. C'est un petit peu, en quelques mots, l'objection qu'on rencontre aujourd'hui, et notez-le bien, qui est partagé par beaucoup de prélats catholiques aujourd'hui. Ces prélats qui disent que l'Ancien Testament, c'est une écriture juive et que les chrétiens l'ont volé d'une certaine manière en changeant le sens. C'est faux. Saint Augustin explique que ceux qui disent cela sont ceux qui ne distinguent pas le judaïsme d'avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui était la vraie religion, la religion des patriarches, des prophètes, de tous ceux qui attendaient le Messie, et qui préparait sa venue, Donc il ne distingue pas ce judaïsme d'avant notre Seigneur et le judaïsme d'après notre Seigneur qui n'a plus rien à voir, qui a rejeté le Messie et qui s'est dressé contre l'Église. L'Église qui est la seule héritière, la véritable héritière des promesses faites à Abraham. Ce deuxième judaïsme qui est né du refus de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une autre religion, ça n'est plus la vraie religion. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit de ces Juifs incrédules qu'ils sont les rameaux desséchés, séparés de l'olivier franc sur lequel a été greffé le surgeon sauvage de la gentilité, c'est-à-dire du paganisme. Les païens sont convertis et la vérité leur est venue, c'est vrai, par les Juifs au départ, et spécialement par les apôtres. Et parce que ces Juifs infidèles n'ont pas cru au Christ, ils se sont coupés d'eux-mêmes comme des branches mortes des promesses faites par Dieu au peuple choisi. En d'autres termes, l'Ancien Testament n'est pas le livre de ce judaïsme incrédule, c'est un livre chrétien dont Dieu est l'auteur, l'unique auteur. Dieu a écrit et l'Ancien et le Nouveau Testament par l'intermédiaire d'un certain nombre d'écrivains sacrés. Et il appartient de droit à l'Église, cet Ancien Testament, car l'Église seule a les lumières pour l'interpréter comme il convient. Et si les saints personnages et les martyrs de l'Ancien Testament, et il y en a beaucoup, Abraham, David, et puis les Maccabées, pour ne citer qu'eux, si tous ces saints, ces martyrs, n'ont pas confessé le Christ ouvertement, mais seulement de façon implicite, c'est simplement parce que le mystère du Christ était encore voilé. Ce voile qui recouvrait l'Ancien Testament est tombé quand le Christ s'est incarné et qu'il a révélé dans le Nouveau Testament le vrai sens de l'Ancien Testament. Saint Augustin a résumé toute cette doctrine dans une petite formule célèbre, très ramassée. Dans l'Ancien Testament, dit-il, le Nouveau est caché, et dans le Nouveau Testament, l'Ancien est dévoilé. Et dans le même sens, Origène a souligné l'unité des deux testaments. Il appelle le Christ la perle précieuse qui est caché dans le champ de l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que saint Paul, quand il parle des Juifs infidèles qui n'ont pas cru en notre Seigneur, écrit, c'est dans sa deuxième épître aux Corinthiens, « Jusqu'à ce jour, quand on leur lit Moïse, un voile est placé sur leur cœur. Or, ce voile demeure pendant leur lecture de l'Ancien Testament. Impossible de l'enlever, car ce n'est qu'avec le Christ que ce voile doit disparaître. Sans la clé de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas comprendre le sens véritable de l'Ancien Testament. » Et saint Augustin termine en s'adressant à un juif fictif, « Quand tu seras passé au Christ, alors le voile sera enlevé. » Faut passer au Christ, faut se convertir. Ça n'est donc pas la lecture de l'Ancien Testament qui doit disparaître, mais le voile qui le recouvre. Les pages de l'Ancien Testament n'ont jamais été destinées à périr, mais elles ont été destinées à recevoir leur réalisation dans celui qui a dit « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir », notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec l'avènement de Jésus-Christ, le voile est enlevé. L'obscurité de la lettre fait place à la lumière. Le sens de l'Ancien Testament qui était jusqu'alors fermé, parce qu'il manquait pour l'ouvrir la clé de la croix, ce sens est désormais ouvert. Du haut de la croix, quand le Christ s'est écrié « Tout est accompli », vous le savez, le voile du temple s'est déchiré, parce que tout ce que l'Ancien Testament tenait caché, à partir de ce moment-là, a été clairement révélé. Alors les Maccabées sont bien des martyrs du Christ, et leur histoire, comme toutes celles qu'on trouve dans l'Ancien Testament, est une histoire chrétienne, riche d'enseignements, pourvu, bien sûr, qu'on la lise à la lumière du Christ et de la révélation du Nouveau Testament. Comme le dit saint Augustin en conclusion de cette petite explication, des millions de martyrs par tout l'univers ont marché sur leur trace, la trace des Maccabées. N'hésitez pas, mes frères, à les imiter vous aussi. En imitant les Maccabées, songez que ce sont des chrétiens que vous imitez, apprenez d'eux à mourir pour la vérité. Et l'auteur du deuxième livre des Maccabées, en nous racontant cette persécution, toute cette histoire, nous donne justement un avertissement qu'il est très utile de méditer en ce temps de perte de la foi. Voici ce qu'il dit. Je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera, c'est notre cas, de ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités et de croire que ces persécutions ont eu lieu non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Quand Dieu ne laisse pas les pécheurs impunis, mais qu'il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de sa grande bonté. Dieu ne retire jamais de nous sa miséricorde. En le châtiant par l'adversité, il n'abandonne pas son peuple. Bien au contraire, il le guérit. Il travaille à son relèvement. C'est une leçon qu'il nous faut retenir, parce que nous aussi, nous sommes soumis à des persécutions ou à des tribulations. C'est inévitable. Alors réfléchissons et voyons ces choses en chrétiens. Il y a un mystère, c'est vrai, un mystère qui nous déconcerte. Car enfin, pourquoi Dieu permet-il la ruine apparente de l'Église aujourd'hui ? Pourquoi permet-il cette désorientation diabolique, comme disait Lucide Fatima ? Pourquoi permet-il l'effondrement général de toute la civilisation chrétienne ? C'est un peu mystérieux tout de même. Pourquoi Dieu, aujourd'hui comme hier, laisse-t-il le mal régner ? Il y a là, semble-t-il, un scandale qui nous désoriente, qui nous fait perdre pied. On est un peu tenté de réagir comme le psalmiste dans le psaume 72, le psalmiste ébranlé à la vue de la réussite des impies, de la prospérité des méchants, alors qu'il dit ceci, « Pour un peu, mes pieds étaient ébranlés, mes pas ont failli s'égarer, j'ai porté envie aux méchants en voyant le bonheur et la paix des impies. » Eux semblent dans une abondance insolente et les justes, eux, souffrent. Le bonheur apparent des méchants et la souffrance des justes, c'est une vraie question. Il y a de quoi être déstabilisé. Pourquoi les justes souffrent-ils sans motif apparent ? Pourquoi les bonnes choses n'arrivent-elles pas seulement aux bons et les mauvaises aux méchants ? N'y a-t-il pas là comme une injustice ? Alors saint Augustin répond non, absolument pas. Et avoir de telles pensées, ce sont des pensées qui sont beaucoup trop terrestres. Ce sont des pensées de la terre, des pensées charnelles. Si Dieu agit ainsi envers les justes, s'il permet leur persécution, leur tribulation, c'est toujours pour leur bien, parce qu'il les aime, pour les corriger, les guérir, les purifier de leurs péchés, de leurs infidélités, de leurs ingratitudes, parce qu'ils ont oublié Dieu. Et sans doute n'y a-t-il pas d'autre moyen à ce moment-là que l'épreuve pour revenir à Dieu. Quand l'homme préfère les séductions du bonheur humain, les attraits des plaisirs, les suggestions d'un monde qui flatte ses mauvais penchants, faut que Dieu intervienne, sinon l'homme est perdu. Mais, après la mort, alors ce seront les méchants qui seront malheureux et les justes seront heureux. Il faut toujours garder à l'esprit cette perspective future. Dans la vie future, il n'y a plus de place pour les impies. Mais ici-bas, les impies ont leur place. Ça fait partie du plan de Dieu. Si Dieu ménage aux méchants une place, s'il les nourrit, s'il fait lever sur eux son soleil et répandre sa pluie, si sa patience les supporte jusqu'à l'extrême limite, ça n'est pas pour rien. Je vous cite encore saint Augustin pour terminer. Voici ce qu'il dit. Voyez, par exemple, la place de ce misérable Antiochus, donc le persécuteur des Maccabées. Par lui, le peuple de Dieu a été frappé et éprouvé. Mais grâce à lui, ces saints jeunes gens, les Maccabées, ont été couronnés. Il a donc eu sa place ici-bas. Il était mauvais, mais celui qui ne saurait être mauvais, c'est-à-dire Dieu, a su faire de lui un bon emploi. Dieu utilise les méchants comme des instruments. Comme les hommes mauvais usent mal des créatures bonnes, au contraire, cet être de bonté qu'est le Créateur fait bon usage des hommes mauvais. Le peintre sait où placer la couleur noire pour embellir sa peinture. Et Dieu ne saurait où mettre le pécheur pour faire resplendir l'ordre du monde. Vous voyez, le pécheur sert à faire resplendir l'ordre du monde. Il rehausse en quelque sorte, comme fait le noir dans une peinture, il rehausse la lumière la beauté, la vérité, toutes ces choses prennent un nouvel éclat. Si la patience de Dieu n'avait conservé les pécheurs dans les siècles passés, verrions-nous aujourd'hui naître tant de fidèles ? Bien sûr que non. On n'aurait pas vu couler le sang du Rédempteur sans la malice de Judas, sans la malice du déserteur, du traître. Alors, dans le monde, il y a place pour l'impie. Mais quand les choses seront passées, dans la vie future, il n'y aura plus de place pour lui, pour les impies, car les justes n'auront plus besoin d'être exposés à l'épreuve. Il n'y aura plus d'épreuve. Alors, saint Augustin termine justement par une petite image. Faudra-t-il alors, quand nous serons au ciel, que l'or se débarrasse encore de ses scories ? Il n'y aura plus de scories. L'or, ce sont les justes, et les scories, ce sont les impies. Ici-bas, la tribulation sert de feu, et l'orfèvre, c'est Dieu. Le juste loue Dieu, c'est l'or qui rutile. L'impie blasphème contre Dieu, ce sont les scories qui fument. Aux mêmes tribulations comme à un même feu, l'un est purifié, le juste, l'autre est consumé, le méchant. Mais dans l'un et l'autre, l'orfèvre divin est glorifié. Alors profitons de cet enseignement. Ne nous scandalisons pas du mal qui existe dans le monde, mais comprenons que Dieu, dès lors que nous faisons vraiment la volonté de Dieu, que nous lui sommes totalement soumis, Dieu utilisera tout ça pour notre propre sanctification. Saint Augustin dit « Crois ce que tu ne vois pas encore, pour mériter de voir un jour ce que tu crois. Vis comme un pèlerin, songe que tu es un être de passage et tu pécheras moins. Nous ne sommes pas faits pour rester sur terre. Bien, prions Notre-Dame, secours des chrétiens, reine des martyrs, qu'elle nous protège et qu'elle nous fortifie dans ces combats de la vie présente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »